Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse et on réfléchit à l'actualité de la semaine. Et cette semaine, nul autre que Jules Simard pour venir éclairer l'actualité de sa sagesse légendaire et de son vécu, Tony Truant. Bonjour, Monsieur Simard.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, toi?
On est en forme, on est en forme.
Malgré la COVID. En plus, une belle période de température. On a battu de 7 degrés le record de chaleur hier.
Honnêtement, là, l'année passée, on est le 20 aujourd'hui. Ouais. L'année dernière, il y avait eu une tempête de neige dont la neige avait resté. Mais l'an dernier.
Ouais.
Aujourd'hui, on était quasiment en short dehors.
Ah oui, facilement. Donc, on va décoller ça, on va parler, on en parle rarement, même s'il y a beaucoup de sujets en ce moment qui ont un lien avec le COVID-19. On se doit de le souligner. Il y a une deuxième vague au Québec, on le sait, on est tombé en zone rouge. Mais c'est très inquiétant pour la région parce que per capita, on est la région où il y a le plus de cas. Et en chiffre absolu, on est la deuxième région où il y a le plus de cas après Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on était trop confiants parce qu'on a eu peu de cas lors de la première vague? Comment tu analyses cette situation-là, toi, Jules?
Honnêtement, je pense qu'il y a un virus qui est excessivement vicieux.
Oui.
Et je pense, on regarde ça, là. Oui, il y a eu fort probablement une forme de relâchement un peu au niveau des... Mais globalement, là, quand tu te promènes en ville un peu, quand ça donne, parce que tu peux quasiment pas te promener en ville, mais quand tu te promènes en ville, les gens, là,
peu importe,
ben, moi, je pense, en tout cas, le port du masque, à tout le moins, est respecté dans, je te dirais, 95% des cas, quand j'ai à sortir. On limite par ailleurs. Nous, moi, dans mon cas, on limitait beaucoup les sorties à l'extérieur ou dans les magasins.
Mais as-tu l'impression que les sorties, justement, on se protège, on le sait, on est regardé, tu sais, mais que ça se passe à l'intérieur des maisons? Nous, on a décidé on n'a plus aucune activité sociale à part les activités en famille chez nous avec les enfants, en se disant, bien, ça peut aider à ce qu'on ne l'ait pas. Mon père a 75 ans, on veut faire attention parce qu'il reste dans notre bulle. Est-ce que ça peut avoir un lien?
Oui, bien, fort probablement. Je sais, j'ai eu des échos. On a des échos de, tu sais, pas plus tard qu'en fin de semaine dernière, dans le secteur sud du lac Saint-Jean, un party familial où il y avait plus d'une cinquantaine de personnes qui se sont retrouvées. Et il y avait à l'intérieur de ça 5 personnes, semblerait-il, d'après ce qu'on a pu voir, 5 personnes qui avaient la COVID. Or, le lendemain, il y en avait 45 autres de plus.
Ben oui, c'est ça.
Tu sais, ce genre de choses-là, oui, je pense, c'est maintenu. On se sent peut-être un petit peu plus, on se sent peut-être un petit peu plus vulnérable. Je prenais le reportage de quelqu'un cette semaine où est-ce que la personne disait, « Ben, tu sais, moi, je vis dans un milieu rural, on n'est pas très touché par ça. Nous, chez nous, on voit moins de personnes.
Ouais. »
C'est peut-être vrai, là, OK? Sauf que, bon, si tu fais un relâchement quelconque, t'as peut-être plus de monde qui vont être pognés dans ta municipalité parce que on est peut-être moins, justement, mais je veux dire, tout le monde peut peut-être y passer rapidement. Alors, je ne sais pas, je sais vraiment pas. Où est-ce qu'on s'en va?
Hein, aussi, il y a des foyers dans les hôpitaux. On voit que la limite des lits est presque atteinte là, pour les hospitalisations. J'espère qu'on va réussir à faire redescendre cette courbe-là.
Il va falloir parce que... Mais quoi que tu vois, quand le ministre est venu cette semaine, fort probablement qu'ils avaient les tests qui avaient été faits.
Ouais.
Donc, même si tu n'avais pas les résultats tout de suite, tu pouvais prévoir. Et il disait, écoute, le pire semble pas être passé... Il veut dire, quand on me dit ça comme ça, c'est parce que j'ai peut-être des informations en aval qui vont me permettre de dire ça. Écoute, on est en record quasiment quotidien. Là,
200
on est
cas
à 200 cas quand, dans...
Quand dans la première vague, quand on avait 3, on capotait. Là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Tu comprends que... il y a effectivement eu... mais où ça aurait... Je pense que ce virus-là... quand il se met à attaquer, il attaque. OK? Ouais. Et, tu sais, ça en prend qu'un pour en avoir trois, semble-t-il, par la suite. Oui. Alors, tu comprends, ça veut dire qu'on n'est quand même pas un demi-million, là, dans la région, là.
C'est quand même des bonnes nouvelles, hein. Il y a des vaccins qui ont démontré des résultats très, très, très encourageants. Deux vaccins en phase 3 qui vont tomber en phase 4. Donc, peut-être qu'en 2021, là, on pourra obtenir.
On a par ailleurs, en fait, ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'il faut qu'il soit plus que congelé, là, ton vaccin. Ça va. C'est pour l'administrer, là, ça va quand même te prendre fort probablement un équipement réfrigéré un peu. Je vais dire comme quelqu'un disait ce matin, bien, je suis allé pour le vaccin de la grippe et quelqu'un disait, bon, ben écoute, on va s'organiser pour faire ça dans les usines de congélation de bleuets, là. Ben, pour pouvoir être en mesure de pouvoir, en tout cas, quoi qu'il en soit, oui, il y a fort probablement des vaccins qui vont apparaître. Et, mais tu sais, le virus va rester là.
Ouais,
le
oui.
virus va être là. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer ce virus-là? Je ne sais pas. Si c'est possible, ou s'il fait comme il est toujours là, c'est comme il était peut-être latent quand on a eu la première vague, mais bon, on a été chanceux de passer à côté. Mais là, il a décidé de nous attaquer. De nous attaquer un peu plus vite.
Bon, malgré tout ça, ben la vie continue. L'hiver s'en vient. Je veux qu'on parle de Domiski. Okay. Domiski, un incontournable pour les sports d'hiver et maintenant aussi là, pour le vélo de montagne, etc., dans le secteur de la MRC Maria-Chapdelaine. On nous dit qu'il faudrait probablement un nouveau chalet. Est-ce que c'est des informations que tu as entendues?
Oui, je pense que dès l'an dernier, je pense que ça monte à 3 ou 4 ans où il y avait eu, on avait fait dans l'étude, et on avait démontré qu'au niveau du chalet, il faudrait qu'il y ait plus que du rafraîchissement pour qu'il soit, en ce qui regarde les normes aussi, puis ouais. les nouvelles normes, toutes ces choses-là.
Et si on veut garder un centre de ski intéressant.
C'est ça.
Aussi.
On avait mis de l'avant, dire, bon, ben oui, il faudrait qu'on investisse là-dedans. Je sais qu'au niveau du conseil, parce qu'à un moment donné, ce qu'il fallait faire, la priorité, c'était est-ce qu'on investit tout de suite dans le chalet ou si on ne sauve pas aussi Domiski. Et c'était financièrement l'idée là, qu'il fallait se mettre. Or, est-ce que la municipalité se retrouvait à être obligée d'investir davantage? Pour qu'à tout le moins, il puisse y avoir un minimum d'activité qui s'y tienne. On en était aussi là dans le temps. Alors, peut-être, je sais que la municipalité a quand même investi pour qu'on puisse avoir des activités de base. Or, la situation financière est quand même fort probablement encore précaire, mais là, on en serait rendu à se dire, pour qu'on puisse être capable, peut-être non pas de rentabiliser, parce que ce sont des équipements où il faut faire attention sur la question de la rentabilité. Mm-hmm. Fort probablement que, comme collectivité, pour qu'on puisse maintenir un centre ouvert, il va falloir qu'année après année, on y investisse.
L'argent, pourquoi pas en investir une fois un plus gros montant pour remettre ça à
l'eau?
C'est
ça, il va falloir qu'on puisse être en mesure annuellement prévoir, un investissement. Tu sais, je veux dire, tu as eu la même affaire avec la question des grands jardins normands. Je peux en placoter un peu parce que, j'y ai été quand même directeur pendant un certain temps. Et si la municipalité ne mettait pas, et elle mettait à hauteur de 75 000 $ par année pour pouvoir être en mesure d'aider à la reprise d'activité, tu comprends, si on ne met pas, si la municipalité, jamais, je dis jamais, on aurait pu fort probablement être capable sur le long terme d'en arriver à avoir une forme de ce que ça te coûte, tu reçois par les visiteurs et ces choses-là. Mais tu sais, il aurait fallu rehausser tellement le prix d'entrée qu'à un moment donné, tu te serais ramassé et dire, il y a moins de monde qui vient parce que ça coûte. Alors, tu sais, on est pogné dans ces cercles vicieux-là, ce qui fait en sorte que, oui, on peut penser qu'un nouveau chalet va être pertinent et nécessaire au niveau de Domiski, mais il faut aussi prévoir que faudra qu'on investisse collectivement pour maintenir les opérations.
Puis, c'est, il me semble que c'est un chalet, parce que le terrain est là, tout a l'air de bien fonctionner. Un chalet, c'est pas non plus, là, tu sais, on parle, le complexe Aquagym, ça a coûté 10-11 millions, mais si on construit juste un chalet, c'est pas non plus des investissements là, hors de prix, selon moi. Là.
Fort probablement pas. Par contre, tu sais, quand tu fais un investissement collectif, il faut pas le regarder, je pense, l'élément de la rentabilité,
non,
j'investis dans l'entreprise privée pour pouvoir être dans une usine. Et oui, on peut peut-être penser que ça peut être à portée de main. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être quoi, 1
750 000? Moi, je pense moins
que ça. Pas sûr.
Ben, moi, de faire des chiffres, des méchantes grosses maisons là, pour 200-300 000.
Oui, mais là, aujourd'hui, tu es dans... Tu sais, regarde, on va parler 30 secondes de la COVID. Actuellement, là, on dit que les écoles sont vétustes parce que les systèmes de climatisation, on n'en est pas sûr.
On va en parler,
c'est... Ah, OK, bon. Tu comprends? Ce genre de choses-là, actuellement, là, pour un investissement que tu vas faire sur un équipement collectif comme ça, tant qu'à le faire, là, ton système de climatisation, OK, tu vas peut-être investir dedans pour qu'il s'y conforme. Or, là, actuellement, il n'y en a pas, là.
Ouais.
Le système, c'est rouvre la porte puis ferme la porte. Là. Ça, c'est le système de climatisation.
Comme chez nous.
Exact. C'est le système de climatisation qu'on a, mais jamais tu vas rebâtir un système.
Ouais,
t'as des... Je pense que, oui... Ben, moi, j'avais déjà entendu parler de 450 000 v'là une couple d'années.
Ben, tu vois, ça, je trouve bien. Jusqu'à 500 000, je trouve ça raisonnable. V'là une
couple d'années.
Ouais.
Hein? Et je pense qu'on est peut-être plus près d'un trois quarts de
million. En tout cas, 1 million, c'est déjà pas mal moins que 10 millions, là, tu sais, pour collectivement, hein, pour un investissement. Je pense que... Il faudrait regarder que la population, si la population en veut aussi, là, c'est important qu'il y ait une acceptabilité sociale.
Oui, il y a ça. Puis, tu sais, c'est comme quand il a été question de l'Aquagym à un moment donné, quand on investit-tu. C'est tout près de 16 millions, je pense, qu'on investit là-dessus. On investit-tu 16 millions de dollars. Et quand, je me souviens, José, à cette émission-ci, on discutait avec Joanie, et puis je disais, écoute, c'est-tu nécessaire d'avoir... Oui, si nous voulons avoir une forme d'attraction au niveau municipal pour pouvoir être en mesure d'avoir de nouveaux résidents puis des résidents qui vont s'acheter des maisons puis qui vont payer les taxes, c'est peut-être nécessaire qu'effectivement on puisse avoir ce genre d'équipement-là. Et peu importe un peu quasiment... le coût que ça peut coûter, mais il faut qu'on mette ce genre d'équipement-là. Ça a une force d'attraction. Or, Domiski, même si ce n'est pas toute la population qui s'y rend, elle a quand même, oui, une valeur d'attraction que tu peux avoir.
Écoles,
en plus, tu es dans le milieu. En plus, tu es dans le milieu, c'est ça. T'es dans le milieu de la municipalité.
Il n'y a rien de prêt, sinon, là, tu sais, pour faire des sports de glisse.
Exact. Fort probablement qu'il va falloir investir. Mais je pense qu'il faut avoir en tête que, oui, c'est un investissement qu'on nous va mettre, mais que collectivement, il faudra aussi le supporter avec financièrement parce que seules les opérations ne pourront pas. En cours. À ce que je connais de ce genre d'équipement-là, ne pourront pas le faire vivre.
D'accord. Avec Véloroute des Bleuets,
oui.
Meilleure saison en 20 ans, en temps de COVID. Ça te surprend, ça te surprend pas?
Oui et non. On est quand même sur un... on a fait beaucoup... La COVID, à ce site particulier, c'est qu'elle nous amène à faire du sport individuel. OK? Ouais. Donc...
Puis elle va pas pouvoir sortir du pays.
Pas beaucoup, pas beaucoup, effectivement. Donc, oui, tu t'es peut-être acheté un vélo. Ça peut être mon cas, tu me diras, là. Mais, oui, tu t'es peut-être acheté un vélo. Donc, tu t'es acheté un vélo, tu as dit, OK, on va en profiter pour aller se promener sur la véloroute. Tu sais, on est actuellement très, très fort au niveau de la COVID, là. Hein? On a... Donc, peut-être qu'on a eu aussi plus de visiteurs extérieurs qui sont venus nous voir. Mais là, mettons pas ça sur la faute des autres. Là.
Mais clairement, on a eu une bonne saison touristique malgré la COVID.
Exactement.
Puis je pense que la notoriété de la véloroute à travers le Québec ont fait que tous les gens se sont dit tant qu'à aller faire du vélo, allons au plus bel endroit au monde faire du vélo, le lac Saint-Jean.
Et ça, ça l'a certainement entré en ligne de compte. Et oui, chapeau pour un équipement collectif qui nous a coûté plusieurs millions de dollars et qui démontre, bon, sa pertinence. Tu sais, tu as eu un autre phénomène aussi. Moi, j'ai un chalet en forêt.
OK.
Ben, moi, ce que je peux te dire, c'est que cet été...
Tu as passé pas mal de temps là?
Non seulement j'ai passé pas mal de temps là, mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont passé beaucoup de temps dans les chalets.
Ben oui.
Parce, et ce n'était pas nécessairement les propriétaires. On a loué beaucoup, de chalets. Alors, c'est ça, c'est les activités en bulle qui ont eu la cote. Et c'est un peu une activité comme le cyclisme. En plus, ça se pratique à l'extérieur. En plus, tu sais, je veux dire, tu étais dans une zone où tu pouvais fonctionner.
C'est idéal, en fait.
Où tu pouvais fonctionner sans mettre de masque à faire le vélo. Ça explique fort probablement le résultat obtenu là-dessus.
On va parler forêt, modification du régime forestier. On nous dit que l'objectif, c'est pour diminuer le coût de la fibre et de garder l'industrie rentable. C'est quoi ton analyse de cette modification du régime forestier?
En fait, j'ai essayé de voir ça a été quoi les éléments qui ont été qui vont être mis de l'avant là, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir des modifications. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est simplement des caractères administratifs qui ont été amenés. Donc, les principes de base ne seraient pas touchés. Et ce que, entre autres, les ingénieurs forestiers faisaient valoir, c'est que, on a l'ingénieur forestier qui travaille pour une papetière, pour une entreprise forestière, se dit, c'est le ministère qui décide tout. Nous, ce qu'on a fait, c'est de dire, regarde, il faut appliquer ça.
Ouais.
Donc, le rôle de l'ingénieur forestier est un peu mis de côté.
Il est tributaire, en fait, de la décision du ministère.
De la décision du ministère, parce que c'est le ministère qui décide beaucoup plus. Maintenant, il faut se rappeler que quand on a fait le nouveau régime, ce régime forestier-là, ce qui a été mis de l'avant, ça a été de faire beaucoup une exploitation forestière dans un contexte de développement durable.
Ouais.
OK? Or, ce qui fait en sorte que ça coûte cher, OK, tant pour les forestiers, c'est cet élément-là aussi. Or, ce qu'ils s'attendaient, c'était peut-être d'avoir des formes d'allègement sur les critères, et semblerait-il qu'on n'y touche pas. OK? Collectivement, il faut se rappeler que le régime forestier, quand il a été mis de l'avant, c'était pour faire en sorte que nous ayons aussi le maximum de retombées collectivement sur l'utilisation de la forêt et non pas juste des retombées très bonnes pour l'entreprise privée qui l'exploitait. Alors, tu sais, je pense qu'on en est encore là-dessus et si je suis un entrepreneur forestier, je me dis, le coût de la fibre, là, tu sais, ça me coûte cher. Moi, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, où est-ce que ça coûte peut-être moins cher avoir la fibre? Par contre, où est-ce qu'on vend notre bois? On le vend aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de produire tous leurs propres besoins. Donc, on s'en vient chez nous. Et là, on prend notre forêt, on le ship en 2x4. Aux États-Unis, malgré les surtaxes, malgré les ci et les ça, c'est quand même le point sur lequel on y va. On en est où? En ce qu'on a fait, on aurait fait, semblerait-il, une réforme essentiellement cosmétique pour pouvoir être en mesure de dire, au lieu que ça c'est, on demandait d'avoir des périodes plus évaluées, plus longues sur l'exploitation quand tu reçois ton CAF, ça s'appelle plus un CAF, On demandait d'avoir des périodes plus longues. On n'a pas ces éléments-là. Semblerait-il aussi qu'on aurait... Il y a un gars que j'aimerais entendre là-dessus. Et je te le soumets peut-être pour
ouais.
Le... Il faut rappeler que Denis Drossier
mm-hmm.
était un des gars qui a travaillé, comme beaucoup, dans ce nouveau régime forestier-là. Il était avec la désormais célèbre Mme Normando, qui était ministre des forêts, pas de la forêt, des ressources naturelles, parce que le ministère de la forêt n'existait pas dans le temps, et qui ont mis de l'avant, et je me souviens des interventions de Denis en commission parlementaire. Ce serait peut-être intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe avec lui, de quelle façon il interprète ça aussi. Est-ce que ces valeurs cosmétiques-là étaient nécessaires ou s'il y aurait peut-être eu des éléments au niveau des principes de base élaborés qui auraient pu être remis en question pour faire en sorte que... Maintenant, où est-ce que moi, je suis un peu moins chatouilleux? C'est que si c'est vrai que la fibre coûte cher au Québec, OK, et que j'en ai plus dans mes poches collectivement, je suis peut-être intéressé à conserver ça.
Oui, parce qu'on le vend pareil, le bois, là.
C'est en plein ça.
Puis là, en plus, il y a des pertes, on pourrait ramasser. Il y a plein de modifications qu'on pourrait faire pour les résidus, pour tout ça.
Oui, remarque que ça fait partie, effectivement, des irritants qu'il y a dans la loi pour les entrepreneurs. OK? On ne peut plus, comme on faisait dans le temps, prendre ta... on appelait ça une botte, le top de ton arbre, il fallait qu'il y ait 4 pouces et moins, là, tu comprends?
Ouais.
Je me souviens avoir fait le travail de bûcheron avec mon père dans le temps, et si on avait une botte là, qui avait le 4 pouces, et puis que tout de suite, elle tombait à 2 pouces... Fait que là, on s'organisait, on ne pouvait pas aller chercher un autre 8 pieds dans le temps.
Ouais, ouais.
Fallait que tu le caches, là, pour pas que les colères te poignent.
Ah, ouais,
mais en tout cas, ah ouais, oui, c'était, tu sais, un arbre, là, à un moment donné, quand il se met à rétrécir et rétrécir.
Ouais, ouais.
Mais à minute, ouais, est-ce que si tu avais des bottes de 4 pouces et plus, t'étais assurément collé, comme on dit, là, puis... mais en tout cas, ceci étant dit, c'est pratique, là. Sont faites pour pouvoir être en mesure d'aller chercher le maximum de ce qu'il y a sur un arbre aujourd'hui. Je pense que ça, là-dessus, les pratiques, tant des industriels que la personne bien ordinaire qui s'en va chercher son permis, non, son permis de bois de chauffage
ouais,
ou
ouais.
Des choses comme ça, il faut que tu respectes des normes, ces normes-là qui sont de faire en sorte que, tu sais, quand tu vas te chercher, tu vas te chercher du bois dans le bois là, avec ton permis là, pour faire du chauffage,
ouais.
Et puis que tu vois de belles grosses branches d'un bouleau qui restait là, à côté, au lieu de prendre, peut-être que tu aurais eu 4 petits bouleaux rondins, comme on dit, mais tu aurais peut-être eu avantage à aller le chercher aussi parce que tu vas chercher le maximum
ouais.
À ce moment-là de ton arbre. J'avoue que je vais recueillir des petits rondins. Moi, ça m'intéresse. Des fois, tu regardes, tu te dis, ah, regarde, oui, j'ai un permis de coupe, là. Mais là, le gars qui a passé ou la fille qui a passé avant de moi, elle a laissé son arbre pas mal gros, là, le 4 pouces à souche, là. Pas à souche, mais au top, est encore. Fait que oui, je me recoupe encore une coupe de bûches là-dedans. Pour pouvoir être en mesure d'aller chercher le maximum de l'arbre. Je te dis pas que je suis le meilleur du monde là-dessus, là. Mais au moins, je pense qu'il faut être conscient que quand on utilise effectivement notre ressource forestière, il faut aller la chercher au maximum de ce qu'on peut aller
ouais.
Chercher.
Il vient d'avoir des images de toi avec une scie mécanique, là.
Ouais?
Hein?
Ah, ça va numéro un. Là.
Ouais, ça me donne un sourire, puis après ça, ben, ça me fait un peu des fois penser à un film d'horreur.
Ah ouais. non.
On vient sur GNL Québec. Le BAP est terminé. Deux choses, en fait, qui se sont passées. Premièrement, le président Pat Fiore qui a quitté. Donc, est-ce que c'est un signe que ça va pas très bien à l'intérieur de GNL Québec? Et deuxièmement, c'est qu'il y a eu un rapport du BAP qui est sorti pour la Ville de Québec qui a dit « Non, votre projet est pas bon. » Donc, est-ce que... Et là, le gouvernement a écouté le BAP et a dit à la Ville de Québec « Refaites vos devoirs. » C'est en lien avec le tramway à Québec. Est-ce que La force du BAP, qui est un pouvoir de recommandation, il n'y a pas un pouvoir coercitif, là, le BAP. Là. À quoi faut s'attendre? Hein? Parce qu'on voyait pour que pour Québec, il y avait eu un gros poids mis sur l'acceptabilité sociale, qui est donc c'était pas acceptable au niveau de la population. Si on regarde ce qui se passe ici, j'ai l'impression qu'on pourrait revivre le même scénario. T'en penses quoi?
Tout dépend. C'est sûr que tu as eu... premièrement, c'est la question du directeur, du président directeur qui vient de remettre sa démission. Ouais. Il a remis sa démission et il est toujours consultant pour la firme. Alors, je pense qu'effectivement, on le sait, il y a des problèmes au niveau du financement. Ils n'ont plus de financement, l'entreprise. Alors, fort probablement qu'ils veulent trouver quelqu'un qui pourrait aller chercher davantage de financement avec une réputation. Est-ce qu'ils vont nous amener un Albertin à la tête? On ne sait pas. Mais je pense qu'il faut regarder...
S'ils amènent un Albertin à la tête, je pense qu'ils ont mal compris
Là, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. On va voir qu'est-ce qui se passe. En ce qui regarde le BAP lui-même, le fait que là, les éditions sont finies, on le sait, on en parlait lors de notre dernier entretien. Le BAP se doit, oui, de prendre en considération ce qui se dit, peu importe le côté qui se dit, et être en mesure de dire, l'acceptabilité sociale pourrait être là, moyennant telle et telle contrainte, ou encore, elle n'est pas là, même si on met tel et tel élément.
C'est rare qu'on voit...
Je pense qu'on ne peut pas voir...
Non, je pense pas, mais sauf que moi, ce que je voyais qu'il y avait eu beaucoup de poids dans la décision pour Québec, c'était l'acceptabilité sociale. Puis je fais tant, ça m'a surpris, parce que d'habitude, c'est des considérations plus économiques qui sont mises de l'avant que l'acceptabilité sociale.
Surtout quand le gouvernement... Et écologique. Lorsque tu réussis à démontrer qu'au niveau de l'écologie ou de l'environnement, qu'il y a des mesures qui peuvent en atténuer les effets. Et il veut dire, ils peuvent dire, on peut aller de l'avant à moyennant telle et telle condition. La question de l'acceptabilité sociale est fondamentale aussi dans le mandat du BAP.
Ben oui,
okay?
C'est absolument.
Or, le fait qu'on puisse le dire, puis qu'on puisse l'affirmer, oui, d'après ce qu'on voit, il n'y aurait pas d'acceptabilité sociale assez grande pour pouvoir faire en sorte que ça puisse passer, ça fait partie du mandat qu'ils ont à dire et je te dirais qu'ils ont respecté leur mandat à ce niveau-là. Parce qu'ils ne sont pas là pour prendre une position, une décision. Ils ne sont pas là non plus pour dire, malgré le fait que l'acceptabilité sociale n'est pas là, c'est un bon projet. Ils n'ont pas le droit non plus, parce qu'ils n'ont pas le droit à l'opinion. Ils ont droit à dire voilà ce que nous avons entendu et voilà ce qui en ressort. Est-ce que dans la région, la question de l'acceptabilité sociale a été complètement démontrée? Je n'ai pas tout suivi tous les points qui ont été amenés, mais ça représente fort probablement un poids sur lequel on se devra de se pencher. Je sais que ce soir, il y a aussi un BAP 2, OK, qui est fait essentiellement sur les effets sur la santé publique du projet de GNL Québec. Ouais. Et ça, c'est pas le BAP là, qui le tient, c'est des spécialistes de la région, là. Pas juste de la région, mais des spécialistes, parce que c'est fait sous la présidence d'un professeur de l'UQAM qui est spécialisé en santé publique, effectivement, où on va avoir des gens qui vont amener des
points de
leurs
vue.
Points, semblerait-il. Et à l'intérieur de ça, je sais qu'il y a de ces points-là qui ont été amenés lors du BAP aussi. Mais on souligne que peut-être que le BAP n'a pas eu tout le mandat de regarder la question de l'acceptabilité sociale au niveau aussi de la santé publique. Alors, ça représente, je pense, c'est un dossier qui est à suivre.
Je pense qu'il est important parce que...
Oui, pour la région. Écoute, c'est quand même un investissement global de 9 milliards de dollars.
Oui, mais qui est à court terme, là. Moi, c'est tout le temps le rapport court terme-long terme, en fait, là.
Mais on va le voir, il va quand même y avoir des retombées, là, sur le long terme aussi, dans le sens où quand, il va falloir
qu'il Oui, mais les retombées économiques, je veux dire, tous ceux qui sont pour, on le voit clairement, là, c'est souvent les gens qui font partie de l'entreprise, de l'économie, qui veulent de l'argent maintenant, là. Tandis que ceux qui sont contre, c'est souvent des gens qui ont des visions à long terme, puis qui vont valoriser d'autres modes de production d'énergie, qui vont valoriser l'environnement, donc qui veulent garder un cachet à long terme, tu sais, pour
les générations
futures.
Par contre, il y a aussi un autre élément, puis on reprend peut-être le début de notre discussion en disant cela. Oui, ils veulent de l'argent à court terme, mais l'argent n'est pas là.
Non, c'est ça. Voilà, moi, je pense que c'est là que le bas blesse, puis que.
C'est là.
Que même si Clément disait oui, c'est pas sûr que ça va se faire.
Est-ce que là, le gouvernement va se dire t'as dit beau projet, on le met à l'argent. Ça, c'est à regarder.
Là, je serais vraiment insulté.
C'est là qu'on va regarder.
Ouais. Non, moi, l'argent public, il faut vraiment penser, là, on en a besoin pour d'autres projets en ce moment, là, pas mal plus important que ça. Nous, on est toujours là et on va parler de souvenirs. Parce que cette semaine avait lieu le jour du souvenir, un jour important, mais qui a eu cette semaine, c'était particulier parce qu'à cause du COVID, ben, il n'y a pas eu des grosses célébrations, festivités, parades d'anciens militaires, d'anciens combattants. Qu'est-ce que ça représente, le jour du souvenir, pour toi, Jules?
Un moment où il faut effectivement se rappeler qu'il y a du monde qui ont donné leur vie pour des considérations sociales et politiques dans notre histoire. Il faut que oui, on les connaît peut-être pas tous, là, mais on a à penser que oui, on est allé à la guerre. Tu sais, souvent de fois, moi, je pense toujours aussi à la chose suivante. Tu sais, quand tu es allé au conflit en Europe, à la Deuxième Guerre mondiale, ou à la Première Guerre mondiale, le soldat qui est mort, on dit, un grand patriote. Dans beaucoup de cas, tu avais quelqu'un qui a été conscrit,
ouais,
qui a été obligé, dans l'obligation, mm-hmm, d'aller au front. Et je te dis pas qu'il n'allait pas pour se battre pour la liberté, là, peut-être ces beaux principes-là, mais il voulait peut-être pas nécessairement y aller aussi. Et je pense qu'il faut aussi penser à cela. C'est vrai que c'est des actes héroïques et patriotiques, aller à la guerre. Mais dans beaucoup de cas, c'est aussi une obligation. Je pense qu'il faut, faut peut-être penser
moi,
aussi
à ça. Moi, j'ai des bémols des fois, là, puis là, je discute, là, je jase, là, j'ouvre la parenthèse, si tu veux. C'est Deuxième Guerre mondiale, conflit important, mais clairement méchant, tu sais. Mais quand on regarde, je veux dire, on participe de moins en moins à des conflits armés, là. On a beaucoup eu les casques bleus. On a eu la Corée. La Corée était-tu une bonne guerre? Je mets des gros guillemets dans le sens où...
Moi, ouais, là, ça porte un jugement.
Oui, je porte clairement un jugement là, sur le colonialisme qu'on a pu faire à travers le monde à cette époque-là. Là. Mais tu sais, quand on regarde là, l'implication, je veux pas que j'ai le goût qu'on reparte en guerre pour qu'il y ait encore plus d'anciens combattants. Là. Au contraire, mais ça me pose une question, en fait, sur le pourquoi on a besoin encore d'avoir des militaires, pourquoi on a besoin d'aller se battre. Il y a des grands enjeux derrière tout ça, là. Parce que moi, là, j'ai des amis en ce moment qui sont au Karabakh, une partie qui est en guerre là, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui vivent un conflit réel où des gens meurent. Mais quand on regarde ça d'ici du Canada, c'est une game de risque, là. C'est de la géopolitique entre la Russie, la Turquie, la France, les États-Unis. Mais sur le terrain, il y a des vrais gens qui meurent, là. Puis souvent, je trouve qu'on regarde ces conflits-là comme si c'était des jeux vidéo, là. Puis j'ai un problème, en fait, avec ça.
Bien, et d'où l'importance de se souvenir.
Oui, oui, absolument.
Ça dirait que...
Ah non, je remets pas ça en question.
C'est pour
là.
Ça, tout à l'heure, que je te disais, moi, quand je pense au jour du souvenir, je pense au pauvre type qui est allé à la Première Guerre mondiale, qui était dans les tranchées et qui...
On n'est jamais sorti.
Il n'en est jamais sorti. Puis il ne voulait peut-être pas nécessairement y aller.
Ma première guerre, il ne voulait clairement pas y aller s'il était.
Tu comprends? Moi, c'est ça. Maintenant, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être moins de guerre. Mais quand tu t'en vas faire une, tu sais, une mission de paix, là.
Non, c'est hyper important.
Mais indépendamment de ça, indépendamment de ça, si tu t'en vas faire une mission de paix et que tu en reviens avec ce qu'on appelle des chocs post-traumatiques et qui font en sorte que ta vie est complètement finie, encore là, je pense qu'il faut regarder, oui, pourquoi est-ce que c'est qu'on est allé là? Mais il faut aussi se souvenir de l'impact que ça a sur l'être humain qui a participé à un conflit.
Ah oui, absolument.
Moi, j'ai
on
eu,
l'a trop longtemps oublié, là.
C'est ça. J'ai eu l'occasion d'un... Ben, c'est pas nécessairement une bonne affaire, mais j'ai eu vers l'âge de 17-18 ans, je me suis ramassé à l'hôpital pour une petite opération. Et il y avait, dans le temps, on était deux par chambre, minimalement, et il y avait dans la chambre d'à côté... un ancien militaire qui avait des plaques parce qu'il avait été victime de... Et ces plaques-là le faisaient plus que souffrir. Et il me racontait... Lui, il était camionneur pendant la guerre. Et il avait été victime, effectivement, d'une explosion et son camion, il était passé puis donc il avait perdu. Et il m'expliquait que... Oui, tu ne peux pas aller à la guerre. Tu ne peux pas aller au front. C'est impossible, comme être humain, de te ramasser et de dire « je suis la chair qui peut peut-être y passer ». Il dit « on nous droguait et pour pouvoir être en mesure de nous droguer et de faire activer la fameuse drogue, on nous faisait boire de l'alcool. Moi, je suis sorti de la guerre alcoolique ». Et beaucoup étaient dans cette nature.
On l'a vu les anciens.
Aujourd'hui, on appelle ça des chocs post-traumatiques.
Oui,
mais écoute, les autres, ça en est un, là. Ça en est un, ça.
Écoute,
je pense que c'est ça qu'il faut aussi. Le jour du souvenir doit nous rappeler que des hommes et des femmes, parce que on avait justement un reportage hier sur une soldate, et des hommes et des femmes qui sont allés à la guerre, pas nécessairement parce qu'ils voulaient y aller, mais parce qu'on les a obligés à y aller. Et c'est ça aussi qu'il faut se souvenir. Oui, les principes de base du pourquoi, du comment qu'on est allé à la guerre sont toujours valables, peut-être. Mais au départ,
avoir un bon débat
au départ, je pense qu'il faut avoir
du respect
le respect
pour ces gens-là,
pour ces gens-là qui sont, oui, qui sont morts, mais qui sont aussi revenus avec des séquelles importantes.
Ben oui, on a vu aux États-Unis qui ont tardé pendant longtemps à s'occuper de leurs anciens combattants et comment que ça a créé des problèmes sociaux. Là.
Exact. Regarde la guerre du Vietnam.
Le Vietnam, ça parle-en d'une mauvaise guerre.
C'est
là,
ça,
une guerre d'orgueil. Là.
Ouais, mais,
oui, mais... on a sacrifié des générations de jeunes Américains. Là, OK, je te change de sujet. Je sais que tu voulais en parler absolument de la ventilation dans les écoles, des édifices publics. T'en as glissé tantôt, j'ai pas pu te retenir. Là. Tu voulais vraiment en parler. C'est embêtant, ce sujet-là, selon moi, pour plein de raisons. Parce que ça fait longtemps qu'on le sait que la majorité des écoles sont désuètes, qu'on devrait mettre de l'argent là-dedans, mais bon, l'argent tombe pas des arbres, il faut la trouver. Là, on veut en mettre parce qu'on sait que c'est un facteur de propagation de la COVID-19, donc il y a un enjeu de santé publique. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que le gouvernement, cet été, a dit « Mais nous, on a tout fait ce qui était possible cet été, mais on n'a pas parlé de ça cet été. » Je ne sais pas, c'était peut-être le temps cet été de faire ça. Je suis bien naïf là, là-dedans. Peut-être qu'ils ont essayé. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière les portes closes.
Bien, tu avais eu les CHSLD. Ils ont mis de l'avant là, beaucoup de systèmes d'air climatisé.
Oui, mais ça, c'est chez SLD, mais les écoles.
Bien, c'est ça. Mais
est-ce qu'on a pris ça? C'est comme on dit, les jeunes sont moins touchés, etc. Est-ce qu'on a peut-être pris ça à la légère?
Oui, bien, je pense qu'on s'est dit qu'effectivement, on maintient là, les écoles ouvertes.
Ah oui?
Hein? On les maintient, même si au secondaire, tu y vas une journée sur deux. Hein? Pas grave, là, ils sont ouvertes, là, les écoles. Me dire, comme on disait, en plein hiver, tu n'ouvriras pas la fenêtre pour faire de l'aération. Mm-hmm. Puis dans beaucoup de cas, je regarde Jean Dolbeau ici, tu peux même pas l'ouvrir, la fenêtre. Ouais. Il y en a pas. Tu sais, je veux dire, il y a des fenêtres, mais ça ne s'ouvre pas. On se rend compte que la propagation du virus peut aussi originer par les systèmes de ventilation. Et oui, là, les écoles. Est-ce qu'on en sera rendu à se dire... écoute, là, ouais, on va y fermer aussi les écoles, là, parce qu'ils ne sont pas adéquats. Mais ça représente, tu sais, on a vécu de 2013 à 2018, on a vécu 5 ans d'austérité.
Oui.
Puis de l'austérité, on disait, « Ah, ça va nous faire mal, ça va nous faire mal. » Ben là, ils se promènent, on se rend compte que oui, ça nous fait mal.
Le système de santé, on le voit.
Ça nous fait mal, le système de santé, le système d'éducation, le système de... Oui, il faut investir dans du personnel. Oui, il faut qu'on ait davantage de services à ce niveau-là. Mais si le milieu dans lequel tu fais ton entretien de service, tu fais tes services, n'est pas conforme ou ne peut pas. Tu sais, je reprends quasiment mon dossier, on reprend quand même aussi notre discussion avec le chalet de Domsky.
Ah, oui, 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 c'est clair.
Tu sais, je veux dire, on en est là aujourd'hui pour pouvoir être en mesure de respecter un ensemble de mieux vivre. Il faut que tu aies des normes sanitaires qui sont de plus en plus élevées. Qui te demande de faire en sorte que tu as dans tes bâtiments ou dans tes équipements, oui, une meilleure ventilation, aération ou encore un meilleur milieu de vie pour pouvoir être en mesure de le faire?
On va rester dans le gouvernement de la CAQ en ce moment. On a senti cette semaine, faire un peu le tour de l'état des lieux, on a senti pas un vent de panique à l'intérieur du parti, mais tu sais, moi, je veux faire ça tout en respect, là, dans le sens où le gouvernement de François Legault n'avait pas prévu qu'il allait avoir une pandémie mondiale et je suis sûr qu'ils avaient le goût de faire d'autres choses du Québec. Là, ils sont pris avec ça. Je considère qu'ils font leur mieux. Je ne suis pas d'accord avec toutes les décisions, mais je ne suis pas non plus en désaccord avec toutes les décisions. Je pense qu'ils font leur mieux dans la situation, puis ils apprennent. Hein, ça ne doit pas être évident là, quand ça arrive comme ça. Mais on sent qu'ils commencent à avoir des fatigues là, au niveau du gouvernement. Penses-tu qu'on va être capable de se sortir de la pandémie en restant un parti fort et uni au niveau de la CAQ? Tu sais, c'est une épreuve hallucinante là, à laquelle ils doivent passer. Là.
Oui, ben, je pense que oui, dans la mesure où la CAQ, c'est un individu. C'est Legault.
Oui.
Il passe encore bien, oui. Je pense, au niveau de la population.
Mais là, avec l'exercice du pouvoir, on commence à connaître plus de gens dans la CAQ, on les voit, là, tu sais.
Oui, mais à la minute où est-ce qu'ils ont peut-être une petite coche un petit peu mal taillée, si tu n'es pas l'ami de M. Legault direct, tu ne passes plus. Hein? La ministre de la Santé est partie. La ministre de l'Éducation, la ministre des Affaires autochtones. Dès que tu sais, le dossier sur lequel tu as occupé, tu ne respectes peut-être pas juste la façon de penser du chef. Alors, je pense que la CAQ, c'est ça.
Okay. C'est François Legault. C'est très centralisé comme ça.
C'est François. Ouais. C'est François Legault. Tout passe par le bureau du PM. Puis le programme qu'on avait mis de la main, c'est les idées de François Legault.
On a l'impression qu'on le voit vieillir à mesure à chaque jour, oui. Là, que le pouvoir va...
Il fait son œuvre, comme on dit. Là, oui. Ça use, comme on dit là-dessus. Okay. Je ne penserais pas...
Pensez-vous qu'il y a une crise à l'intérieur du parti?
Non. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas non plus.
Si tu élèves le ton, tu vas te faire un peu comme le Parti libéral.
Plein, ça.
Si tu élèves le ton, tu ne te montreras pas.
Tu t'en vas.
C'était la stratégie de Jean Charest, là. Mettre des femmes dans des postes importants, puis quand ça ne faisait plus leur affaire, ils les envoyaient au bat, puis ils se faisaient tasser. Ah, en tout cas, OK, parlons procréation assistée. Le gouvernement a permis à ce qu'on puisse, donc, il rembourse gratuitement les tests de procréation, le premier test de procréation assistée, in vitro, pour les femmes de 18 à 40 ans. C'est sensiblement bien accueilli. C'est un pas en avant. Est-ce qu'on pourrait en faire plus? C'est quoi?
Je veux dire, on sait que c'était le gouvernement de M. Couillard qui avait enlevé ça. Mm-hmm. OK, ça avait été mis de l'avant antérieurement. Et dans le cadre, justement, c'est un effet des compressions budgétaires qui étaient dans le temps. Qu'on le remette de l'avant, je pense que c'est important parce qu'on a, des gens qui veulent fonder une famille, on a besoin au Québec, d'avoir aussi une procréation naturelle. Mm-hmm. Au Québec, il n'y a pas l'immigration qui peut nous faire progresser. Et que tu puisses être en mesure de pouvoir bénéficier. On me dit que ça peut coûter jusqu'à 15 ou 25 000 $ Je pense avoir des travaux, pas des travaux, mais des soins pour pouvoir être en mesure de
pouvoir...
Ça
change une vie, un enfant, c'est un projet exact. De vie.
Oui, là. C'est ça, mais tu comprends, si t'es au bout, tu le prends et tu le payes au complet, ben, je veux dire, tu peux peut-être dire, bon, écoute, on fait une fois, là. Mais on ne fera pas trois fois.
Ça a
la possibilité, oui, un qu'une fois, là, quand même, qui est...
Mais pour certaines personnes, ça prend deux, trois, quatre
fois.
Oui,
c'est ça. Ouais. C'est que si au moins, la première fois, ça ne fonctionne pas, et la deuxième fois, c'est toi qui la payes, mais au moins, tu te dis, je peux peut-être risquer de l'avoir. Ça, non, je pense que c'est une bonne mesure qui se doit d'être félicité.
Parfait. Question autochtone, on a vu dans les dernières semaines beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, premièrement, on veut former davantage les enseignants pour enseigner, en fait, l'histoire des Premières Nations. En santé, tous les systèmes de santé ont des formations obligatoires. Au niveau de la police aussi, on veut faire des patrouilles mixtes avec plus d'intervenants sociaux. Qui connaissent autochtones, donc qui connaissent le milieu, etc. On a vu, ou même en Ontario, où on a changé la dynamique, et puis c'est vraiment des gens de la communauté qui vont pouvoir être en première ligne pour aider les policiers, en fait, à dénouer les problématiques. Ça me semble être un beau virage, là. Ça me semble positif. On va voir ce que ça va donner, parce que là, c'est des vœux pieux, là. Il n'y a rien de fait encore. Mais il me semble qu'on est dans une bonne direction.
Le nouveau ministre...
Lafrenière
avait dit, écoute, là, on va passer... On ne fera pas la discussion de principe sur le systémique.
Ouais.
Nous allons mettre de l'avant les actions.
C'est ça, c'est le gars qui était le chef du profilage racial à Montréal quand il était chef de
lui,
police. Là.
C'est lui qui, actuellement, a dit, on va mettre des actions de l'avant. Il y a des actions qui sont mises de l'avant. Moi, je dis chapeau. Il y a des problématiques qui sont reliées à des comportements racistes et il faut effectivement que le gouvernement y mette les ressources nécessaires pour pouvoir le faire et les actions pour pouvoir être en mesure. Il faut que ça se fasse de concert avec, naturellement, les Autochtones. Et les décisions qui doivent être prises doivent être adaptées à la réalité de tout, et les Québécois, et les Autochtones, et les immigrants. Et il faut que ces mesures-là soient mises de l'avant de concert avec tout le monde. Et il y a des actions qui se font, chapeau. Ça permet de faire en sorte que peut-être ça ne règle pas le débat du racisme systémique.
La seule manière de le régler, c'est de le reconnaître. Ça prendrait 5 minutes. On le reconnaît, c'est réglé,
On
passe à autre chose.
Non. Je maintiens que c'est pas vrai ce que tu dis là. C'est pas de dire qu'il y a du racisme systémique qui va régler. La question, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons comme action pour faire en sorte que des gestes racistes, qu'ils soient systémiques ou pas, n'existent plus ou soient atténués.
Oui.
Et ça, au moins... on arrête de se faire un débat sur il y a du racisme.
Il y a un débat moral important à faire pour reconnaître qu'il y a un système qui a été fait depuis des centaines.
Si le ministre ou le gouvernement dit il y a du racisme systémique au Québec.
Et voilà, tout le monde va faire. On le savait, on l'avait tout dit, on attendait juste que vous le disiez. Maintenant, on peut-tu avancer? Parce que ça, c'est important. Reconnaître un problème. On ne peut pas apporter une solution si on n'est pas capable de reconnaître qu'il y a un problème.
Mais on reconnaît qu'il y a des comportements racistes.
Oui, mais ce n'est pas des comportements racistes le problème, c'est que le racisme est érigé en système dans notre société depuis des centaines d'années. On ne s'en aperçoit même plus, fait qu'on est capable de le nier dans ce temps-là.
Non, il ne se dit pas qu'il y a... Par le gouvernement actuel, il y a une reconnaissance que nous avons. Oui, comme Québécois, des comportements à caractère raciste.
Qui ont été érigés à l'endroit depuis.
Et à l'endroit des Autochtones. Mm. Et nous sommes peut-être la région, OK, et le comté où on le voit peut-être le plus. OK? On a sur dans notre comté une, ce qu'on appelle une réserve indienne. Je trouve ça dégueulasse.
C'est dégueulasse, absolument. Je suis d'accord.
Bien, je veux dire, la loi est là. OK? Et la loi sur les Indiens, qui fait quelque chose de fédéral, fait en sorte que on a créé des réserves chez nous.
Moi, je crois...
Je vois... Regarde, j'ai été... J'ai eu un accident à un moment donné en forêt avec mon véhicule. Et lorsque je suis sorti du véhicule pour pouvoir être en mesure d'aller chez mon frère, j'ai pris la route avec ma fille pour pouvoir être en mesure, parce qu'on a été chanceux. Mon véhicule était fini, mais j'ai pu m'en sortir. Et lorsque je suis passé sur la route, là, il y a un camion qui descendait à toute vitesse et qui n'a pas arrêté, parce que je l'ai flayé. Il a pas arrêté. Tout d'un coup, je le vois, 1000 pieds plus loin, hein, il arrête. Là, il recule. Ah, il dit, je pensais, il dit que vous étiez des Indiens. Il dit, c'est pour ça que je n'ai pas arrêté. Ça, là, c'est pas... C'est un geste raciste d'un individu, OK, qui, oui, était bien content de me reprendre puis de me remonter parce que j'étais pas un...
Oui,
ça,
mais
là,
mais
ce que je veux dire, c'est que ça, là, ça existe.
Oui, mais
est-ce que c'est un racisme systémique? Écoute, je n'ai pas le comportement de même, moi.
Jules, ça existe, les actes racistes. Mais pourquoi les gens portent des actions racistes? Parce que le racisme a été érigé en système depuis des centaines d'années, parce qu'on a colonisé. Nous, là, on s'est victimisé face aux Canadiens anglais pendant longtemps, mais on oubliait que oui, on était colonisé par les Britanniques, mais qu'on a aussi colonisé les Autochtones ici, et ce qu'on a vécu, on l'a fait vivre. Et reconnaître ça, on pourrait recréer des liens et être un Québec beaucoup plus fort.
OK, on va refaire juste 30 secondes d'histoire.
Oui, parce qu'on voulait qu'on parle des États-Unis.
Ah, OK, mais on va refaire juste 30 secondes d'histoire, puis on va arrêter ça là. Le temps du régime français.
Oui.
Ce que nous avions comme relation avec les Autochtones, et on peut relire tout ce qui s'est dit, ce n'était pas dû... ce n'était pas... je cherche mon mot, là, je l'ai.
Mais ça fonctionnait très bien entre le régime français et les Autochtones.
On avait une... Et à un moment où est-ce que
la conquête.
La conquête est arrivée. Oui, on a eu là la façon d'agir des gouvernements anglais, OK, par rapport aux Autochtones. Et c'est là qu'est venue là, la loi. On n'avait pas... On avait fort probablement, oui, des comportements à caractère raciste,
coloniaux,
mais qui n'étaient pas reliés, qui étaient d'individus, et non pas...
Moment où le régime anglais arrive et qu'on donne les écoles aux religieux et qui vont changer l'histoire pour enseigner une histoire différente où on va dépeindre l'Autochtone comme un sauvage, je m'excuse, mais c'est là où on est riche en système parce que par l'éducation, on transmet la même connaissance à tout le monde et les gens ont des réactions en fonction de ça. C'est ça le racisme systémique. C'est pas de t'accuser d'être raciste, c'est de faire partie d'un système où on réalise même pas qu'on pose des actions. On connaît même pas les territoires dans lesquels on est. On n'a aucun respect. Écoute, c'est le temps que ça change. Moi, en tout cas, là-dessus, je suis inflexible et je suis très informé sur le sujet.
Et ce que ça nous prend, c'est des actions.
Oui, exactement.
Chapeau.
Ouais. Et hey, on a 2 minutes parce que je veux que tu me dises. Hey, Joe Biden, président des États-Unis, l'élection, après 3-4 jours, on a finalement eu un résultat électoral.
Joe Biden. Il était 4 jours devant arriver. Hein?
Ouais. t'as-tu passé par plein d'émotions? Qu'est-ce que tu penses du fait que Trump ne veut pas reconnaître la défaite, qu'il s'en va dans des
procédures? Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur.
Et en plus, là, il disait...
Ça me fait peur comme citoyen du monde, là, et non pas comme Américain.
Puis il n'y a pas de logique dans ses affaires, parce qu'il poursuit dans des États en disant « faut arrêter de compter les votes », puis dans d'autres États, il faisait les mêmes poursuites en disant « faut compter tous les votes selon ce qui l'avantageait ». On dirait un enfant, là. Un enfant qui ne veut pas...
D'une façon... au-delà de cela, il reste 70 jours entre le moment de l'élection puis le moment.
Ouais.
Et c'est ces 70 jours-là qui sont dangereux. Alors là, il a commencé à faire du ménage, hein? Il a commencé à enlever son secrétaire d'État à l'armée. Qu'est-ce qui va se passer demain matin? Puis tu sais ce qu'il a mis? comme nouveau directeur et comme troisième plus important chef militaire aux États-Unis. Oui, il y a des gens qui pensent comme lui, puis des gens qui pensent non seulement comme lui, mais des gens qui se disent, bon, ben là, il faudrait qu'on s'en tape une petite guerre. Là.
Hein? On est dû,
il fait longtemps. On est dû, ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas eu, là. OK, puis check bien ça. Il reste 70 jours où c'est lui qui peut peut-être dire, là, actuellement, il nous a parlé pendant, depuis le mois de mars, du virus chinois.
Oui.
Hein? Qui est en train de dissémer la population américaine comme jamais un virus, une guerre va l'avoir faite. OK? Et check bien ce qu'il va faire avec la Chine. Est-ce qu'il va nous amener une guerre avec la Chine? Peut-être pas direct, mais check bien ce qu'il va nous amener.
On va voir ça, d'ici là, le 20 c'est ça, janvier. Là,
c'est ça qui, te fait peur. Qui est dommageable dans cette élection-ci.
C'est la polarisation
oui, extrême. Tout le monde voulait que le Trumpisme, the greatest of America, il faut que oui, c'est vrai que ça peut être très enlevant pour les Américains. Mais ce qui est dommage, c'est que le système actuellement fait en sorte que tu as quelqu'un qui vient d'être élu, qui peut-être, lui là, aussi, c'est un Américain, le gars, là, OK? Peut-être qu'il peut avoir des comportements dits américains et peut-être que là, il y a du système aussi dans des places, mais...
Absolument. Non, mais c'est ça, on crée...
Mais, tu comprends?
On crée un imaginaire collectif, là,
ce qui est important, c'est que tu as quelqu'un qui est gravement malade, OK? Qui dirige la puissance économique, non seulement économique, mais la puissance militaire la plus importante sur la Terre. Et qu'est-ce qui va nous amener?
On va voir
on
ça.
On peut peut-être passer
peut
un Noël
à toutes
autrement.
Les émissions. Hey, merci, Jules. Au toujours plaisir. Agréable de ne pas être d'accord avec toi. Mais à 95% des choses, on est d'accord. Là. Mais c'est toujours le fun, un peu, hein, un peu de querelle intellectuelle. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!
S'il y a de quoi, n'hésite pas, OK?
Sans faute.
Prends soin de toi.
Bye.
Bye, bye. Prends soin de toi. Prends soin de toi.
Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent.
Moi, je travaille en français.
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 Moi, je travaille en français.